Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Nasser Moussaoui.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Deuxième jour de notre série consacrée à l'économie de l'électricité. Hier, nous avons tenté d'expliquer la hausse du prix du kilowattheure près de 20 ans après l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. Demain, nous allons nous glisser dans les chaînes de montage des voitures électriques avant d'interroger jeudi l'avenir du mix énergétique français. Mais d'abord, penchons-nous sur le berceau de la fée électricité. La science électrique s'est constituée dès les années 1830, mais il faut attendre l'invention de la lampe à incandescence par Thomas Edison en 1879 pour que l'électricité devienne un véritable phénomène de société. L'exposition internationale de 1881 à Paris apparaît comme la grande vitrine de ce symbole de modernité, transportant les visiteurs dans un de ces palais féeriques que rêve l'imagination des poètes, comme l'écrit alors le romancier Louis Figuier. Il est 14h passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons retracer l'histoire de la fée électricité depuis les années 1880 jusqu'à nos jours en compagnie d'Alain Beltran, historien, directeur de recherche au CNRS et auteur avec Patrice Carré de La vie électrique, histoire et imaginaire 18e-21e siècle, paru aux éditions Belin, en compagnie également de Gérard Borvon en duplex de Quimper, ancien formateur en histoire des sciences à l'IUFM de Bretagne et auteur d'une histoire de l'électricité de l'ambre à l'électron publié chez Vuibert. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
C'est alors que retentit un rire étrange, crépitant, condensé, celui de la fée électricité. Autant que la morphine dans les boudoirs de 1900, elle triomphe à l'exposition. Elle naît du ciel comme les vrais rois. Le public rit des mots d'Angers de mort écrits sur les pylônes. Il sait qu'elle guérit tout l'électricité, même les névroses à la mode. Elle est le progrès, la poésie des humbles et des riches. Elle prodigue l'illumination, elle est le grand signal. Elle écrase aussitôt née l'acétylène. À l'exposition, on la jette par les fenêtres. Les femmes sont des fleurs à ampoule, les fleurs à ampoule sont des femmes. C'est l'électricité qui permet à ces escaliers de feu de grimper le long de la porte monumentale. Le gaz abdique. La nuit, des phares balayent le champ de Mars. Le château d'eau ruisselle de couleurs cyclamènes, ce ne sont que des retombées vertes, jets d'orchidées, nénuphars de flammes, orchestration du feu liquide, débauche de volts et d'ampères. La scène est violette, gorge de pigeons, sang de bœuf. L'électricité, on l'accumule, on la condense, on la transforme, on la met en bouteille, on la tend en fil, on la met en bobine, puis on la décharge dans l'eau. On l'émancipe sur les toits, on la déchaîne dans les arbres. C'est un fléau, c'est la religion de 1900.
Alain Beltran et Gérard Borvon, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre une lecture d'un ouvrage de Paul Morand intitulé 1900, dans lequel l'écrivain et diplomate se remémore sa découverte émerveillée du palais de l'électricité à l'âge de 12 ans, lors de l'exposition universelle qui se tient à Paris en 1900. L'électricité s'impose alors comme le symbole du progrès et de la modernité, Alain Beltran.
L'électricité a son palais, le palais de l'électricité, qui est une magnifique façade. Et la nuit, il y a des fontaines lumineuses qui attirent énormément de badauds. Donc elle est le symbole du progrès. On dirait même qu'elle pourrait être le progrès ultime, c'est-à-dire le progrès que tout le monde attendait, la libération, l'aboutissement de siècles de recherche et la libération de l'homme.
Gérard Borvon, pardon, sur cette date de 1900 comme acmé du succès de populaire de l'électricité.
Oh, c'est certain. Les visiteurs, les Parisiens en particulier, sont émerveillés par tout ce qu'ils verront. Bon, déjà la ville elle-même, Paris, c'est largement modifié. L'électricité, c'est elle qui fait marcher le métro. Le métro, c'est quand même quelque chose. L'électricité équipe les tramways. On a même mis en prévision de la foire internationale, on a mis en place des fiacres électriques, une centaine de fiacres qui tournent dans la ville. À l'exposition elle-même, un trottoir électrique, comme ceux qu'on voit dans le métro actuellement, attire évidemment tous les badauds. Mmh. Oui, c'est vraiment un spectacle extraordinaire qu'on montre aux visiteurs.
Un spectacle qui est l'aboutissement d'un certain nombre de découvertes. Et ce qu'il faut peut-être expliquer, Gérard Borvon, c'est que l'histoire de l'électricité, c'est finalement l'histoire de la maîtrise et de la production d'une énergie qui, à la base, est une énergie naturelle.
Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que la recherche de l'utilisation d'une énergie naturelle, par exemple le vent, par exemple les barrages, l'eau, a été une des grandes idées qui a suivi en particulier l'exposition de 1881. On avait là la possibilité, à partir des moteurs électriques en particulier, d'avoir une puissance mécanique qui finalement ne coûterait pas très cher, ne nécessiterait pas qu'on aille chercher le charbon au fond des mines. Il y a effectivement un gros espoir qui avait démarré à cette époque-là.
1881, c'est une date importante. Alain Beltran, je le disais en introduction, c'est la première fois qu'une exposition internationale est entièrement consacrée à l'électricité, avec notamment ce phare électrique qui est un peu l'attraction centrale.
Bon, c'est une date très importante. Ceci dit, à l'époque, on ne fait pas trop la différence entre ce qu'on appellerait aujourd'hui des courants forts et des courants faibles. Donc vous avez aussi le téléphone, vous avez le théâtrophone. On est quand même dans cette période qu'on appelle la seconde révolution industrielle, avec un nombre extraordinaire d'inventions, et l'électricité en fait partie. Alors vous avez cité la lampe à incandescence, bien sûr, mais ce qui a fait la force d'Edison, c'est la lampe à incandescence, le moteur électrique et le réseau qui va avec. C'est pas que la lampe, c'est-à-dire c'est un ensemble.
Ce sont plusieurs découvertes au fur et à mesure du 18e et du 19e siècle. On peut citer par exemple Alessandro Volta, Alain Beltran, qui a joué un rôle très important dans cette histoire de l'électricité.
Alors bon, il y a quelques noms à citer. On peut citer Volta, bien sûr, en 1800 avec sa pile qui est un empilement.
Présenter à Napoléon.
Voilà. Ce qui est intéressant, pour être rapide, c'est que quand même Volta voulait contrarier Galvani, autre savant italien, en disant que l'électricité finalement corporelle n'était pas une réalité. Et donc lui, en prenant des accumulations de métaux qui étaient avec des éléments de vinaigre, il a montré qu'il pouvait produire l'électricité. En fait, c'est le vinaigre qui attaquait les métaux, qui produisait ainsi de l'électricité. Mais c'est intéressant de voir que c'est une polémique de savants qui a donné lieu à cette première pile.
Une polémique de savants. Vous êtes d'accord avec cette vision, Gérard Borvon, et sur ces différentes découvertes du 19e siècle?
C'est vrai, c'est une histoire intéressante. De toute façon, les découvertes de Galvani avaient beaucoup d'intérêt aussi, mais bon, son interprétation n'était pas la bonne. Mais effectivement, après la découverte de la pile de Volta, donc qui était à l'époque un empilement de rondelles, d'argent, de cuivre, de zinc, séparés par des feutres imbibés d'acide, ce qui a donné le nom de pile. On avait là un système qui pouvait produire des décharges déjà assez violentes et surtout qui produisait un courant continu. On rentrait dans le domaine du courant continu, de l'électricité dynamique, alors que jusqu'à présent, on avait ce qu'on appelait l'électricité statique, qu'on obtenait par frottement. Et rapidement, la pile va se développer. Elle va d'abord donner lieu aux expériences d'électrolyse. C'est le premier usage de la pile. Ce sont les chimistes britanniques, Davy en particulier, qui se rendent compte qu'en trempant deux électrodes issues de chacun des pôles de la pile dans un liquide conducteur ou dans un métal fondu, eh bien, on obtenait la décomposition du sel de métal fondu ou de la solution. Et là, Davy et les chimistes anglais découvraient une foule de une foule de corps. L'autre application immédiate de cette pile, ça a été la galvanoplastie, c'est-à-dire la façon de recouvrir d'or ou d'argent des métaux non nobles et qui a été utilisée ensuite.
Et très vite, l'économie va s'emparer de cette découverte électrique. Je pense notamment aux chemins de fer qui vont mettre en place des électrosémaphores. Ça va jouer un rôle important, Gérard Borvon.
Oui, alors là, il faut arriver justement à 1820 déjà, la découverte de l'effet magnétique des courants par Oersted, et ensuite Ampère qui comprend que les phénomènes magnétiques sont en réalité des phénomènes électriques et qui met au point l'électroaimant, hein, et qui ce qui débouche ensuite sur effectivement la possibilité du télégraphe. Parce que le télégraphe à la base, eh bien c'est exactement à partir du moment où on a découvert les électroaimants qu'on a pu créer le télégraphe. Alors à ce moment-là, oui, il y a un gros développement. Alors l'histoire du télégraphe, c'est une histoire effectivement industrielle magnifique.
Le télégraphe qui va servir effectivement au chemin de fer, mais aussi à l'économie dans son ensemble, Alain Bertrand.
Bah oui.
Ah ben c'est un moyen d'accélérer l'information. Donc les hommes d'affaires s'en sont rendus compte, les pouvoirs publics. Il y a aussi tout un discours sur le télégraphe, cette impression que la Terre a rapetissé, puisqu'on peut communiquer à une très grande vitesse. Et donc je renverrai à Michel Strogoff. Il y a deux héros chez Michel Strogoff, il y a bien sûr lui-même, et puis il y a le télégraphe, puisque le journaliste britannique et le journaliste français passent leur temps à essayer de passer des dépêches pour le télégraphe. Donc le télégraphe a aussi été un discours qui ressemble un petit peu à celui qu'on verra 40 ans plus tard.
Le télégraphe et puis aussi le téléphone, qui est l'attraction vedette, une autre attraction vedette de l'exposition de 1881, qui est aussi l'occasion de faire des démonstrations. Et en l'occurrence, cela entraîne une explosion des demandes d'abonnement, Alain Beltran.
Alors l'histoire du téléphone, ce serait assez compliqué, parce que c'est vrai que il y a eu quelques résistances. Il y a des textes de Marcel Proust en particulier qui montrent que aller décrocher le téléphone, répondre au téléphone, ça paraissait parfois pas très digne pour des gens d'un certain niveau. Mais donc le téléphone s'est développé d'une façon peut-être un peu chaotique au début, entre le privé, entre le public.
C'est d'abord les entreprises privées qui s'en sont occupées.
C'est d'abord des entreprises privées, puis ça sera du public.
Et puis, à partir de 1889.
Oui, vous savez, le téléphone français, si on saute dans les époques, il est très très en retard jusqu'aux années 60. Peut-être vous connaissez ce sketch de Fernand Reynaud, le 22 à Nières.
Jacques Percebois nous en parlait justement hier.
Voilà, il faut passer par les États-Unis pour avoir l'information. Après, il y a eu une accélération et ça a été rattrapé. Pendant longtemps, le téléphone français, c'était un sujet de moquerie.
Mais alors l'électricité, comme le disait Gérard Borvon, fonctionne grâce à des piles qui vont connaître un développement industriel très important, Alain Beltran, dans cette fin du 19e siècle. Je pense en particulier à cette pile qui va être inventée par Le Clancher en 1967.
Alors il y a les piles et puis il y a les accumulateurs qui sont où les Français jouent un rôle très important. Et à partir de là, oui, que ce soit pour la chimie, que ce soit pour la communication. Mais ceci dit, ça demande quand même de la place, ça demande à être rechargé et autres.
Quelle différence entre une pile et un accumulateur?
Un accumulateur, c'est un peu votre batterie dans la voiture qui peut se recharger quand ça fonctionne. La pile, elle se décharge sans pouvoir être rechargée. Et donc là, il y a quand même des éléments importants, mais la rupture, ça sera le moteur électrique, sachant que le moteur électrique, il y a tout aussi une genèse. Le moteur électrique majeur, adulte, serait plutôt vers la fin du 19e siècle.
Mais alors le problème, c'est que les lampes qui sont alimentées par des piles forment un dispositif qui n'est finalement pas vraiment adapté à un éclairage à grande échelle. C'est la question qui se pose, Gérard Borvon, à la fin du 19e siècle, quand on cherche justement à développer l'éclairage public.
Les piles, les accumulateurs ont quand même été utilisés parfois pour des éclairages importants. Par exemple, l'Opéra Garnier était éclairé par des accumulateurs et des piles qui se trouvaient dans le sous-sol, et d'ailleurs très fortement polluantes pour les ouvriers qui travaillaient dessus.
Et justement, c'est là qu'on se rend compte que c'est difficile de le développer à plus grande échelle.
Donc, ça a été un essai. Hein, la façon de livrer l'électricité à domicile, ça a été ça aussi. Ça a été de charger des accumulateurs et puis de les apporter chez les gens, comme on apporterait une réserve de charbon ou autre chose. C'est une tentative qui a été faite, qui n'a pas duré très longtemps, qui a été assez efficace dans les campagnes, par exemple. On cite en particulier chez nous en Bretagne des meuniers qui ont équipé leurs moulins de turbines, et puis dans les fermes autour, eh bien les fermiers avaient des accumulateurs qui venaient charger au moulin et qui ramenaient chez eux pour éclairer une pièce chez eux, pour éclairer les tables. Donc ça quand même était un système qui pendant un temps a marché, mais bien sûr ensuite la diffusion par fil a pris le dessus, et en particulier à partir du moment où la diffusion s'est faite par courant alternatif qui permettait de développer des tensions plus élevées.
Et ce que l'on observe, c'est que dans ce domaine de l'éclairage des villes, la France accuse un certain retard.
La France, manifestement, avait une position forte au début des années 1880, puisque le succès de l'exposition d'électricité le démontre, et que le milieu scientifique français, le milieu technique français n'ont pas su bien gérer cet héritage dans les années 1880 et qu'ils se sont laissés dépasser d'une façon inattendue par les Allemands et par les Américains, et en particulier par la technologie allemande. Il faut bien voir que d'abord, la France est un pays où le marché de l'électricité a été beaucoup moins dynamique qu'en Allemagne, où les villes se développaient beaucoup plus lentement. C'est aussi un pays où la législation concernant les concessions d'électricité ont été beaucoup plus sévères à l'égard des compagnies qui ne parvenaient pas à faire des profits parce que précisément ces concessions étaient extrêmement mal conçues. La concurrence du gaz a été soutenue d'une façon beaucoup plus forte par les pouvoirs publics et les autorités locales que dans d'autres pays. Et il faut aussi reconnaître que le milieu scientifique français, durant une brève période, mais quand même la période décisive, si vous voulez, n'a pas su orienter sa réflexion dans la bonne direction.
Le grand historien de l'électricité François Caron dans Les chemins de la philosophie, c'était sur France Culture le 30 janvier 1995. L'éclairage des villes françaises est plus tardif que celui des villes allemandes et américaines, Alain Beltrand.
Oui, incontestablement, il y a deux pays qui ratent un petit peu leur démarrage électrique, c'est la Grande-Bretagne et la France, et deux pays pour qui ça fonctionne très bien, c'est l'Allemagne et les États-Unis. Pour des raisons différentes, l'Allemagne en particulier a construit de très grandes entreprises, qu'on connaît encore, qui s'appellent Siemens ou AEG.
Alors qu'en France, il y a plutôt un éparpillement des compagnies électriques.
Oui, un éparpillement, il faut attendre un certain temps de voir émerger des entreprises de taille internationale. Et puis, d'autre part, les Allemands ont compris que ce qui ferait la force de l'électricité, c'était la force motrice et non pas l'éclairage. Et à titre anecdotique, avant de mettre l'électricité à Paris, il y a eu ce qu'on appellerait aujourd'hui du benchmarking. Et donc, une délégation du conseil municipal de Paris est allée en Allemagne. Et le premier mot des Allemands, c'était de dire... Messieurs, il y a deux pays qui ne comprennent rien à l'électricité, c'est les Anglais et vous.
Et alors, est-ce qu'on n'y comprenait rien aussi parce que le secteur gazier, le système gazier était particulièrement développé en France? Il y avait une concurrence très forte du gaz.
Oui, c'est émouvant pour moi d'entendre François Caron, qui a été mon directeur de thèse. Tout ce qu'il a dit est parfaitement exact. Alors, l'industrie du gaz était une industrie ancienne. Les installations gazières étaient amorties. L'image du gaz pour Monsieur Tout-le-Monde, finalement, était une image relativement banale, alors que l'électricité, ça pouvait être dangereux et autres. Il n'y a pas que ça, il y a la lampe à pétrole dans certains endroits. Paul Morand parlait de l'acétylène. Il y a quand même d'autres moyens. L'électricité, d'autre part, au début, c'est cher. Ça fonctionne pas toujours bien. Il y a des pannes, il y a des courts-circuits.
En même temps, il y avait beaucoup d'incendies liés au gaz. Oui. Donc, il y avait cette idée peut-être que l'électricité était moins dangereuse.
Alors, le gaz, à l'époque, c'était un gaz par distillation de la houille. Donc, non seulement ça explose, mais surtout, on peut s'intoxiquer et on peut se suicider. Il y a encore des gens qui, il n'y a pas si longtemps, essayaient de se suicider au gaz alors que ça n'était plus le plus possible.
Mais c'est en tout cas une histoire compliquée. Gérard Borvaux, je voudrais vous entendre là-dessus, sur ces allers-retours peut-être entre l'électricité et le gaz pour l'éclairage des villes. Par exemple, l'avenue de l'Opéra va retourner au gaz en 1882 après être passé à l'électricité.
Ben, il y a des conflits qui sont vraiment très importants entre les gaziers et les électriciens. Il faut dire que le gaz, au début, a eu un peu de mal à s'implanter. Mais quand il s'est implanté avec des contrats qui portaient sur des durées de parfois 50 ans et parfois plus. Donc à partir de ce moment-là, c'était difficile de rompre les contrats. J'ai l'exemple de la commune où j'habite, à Landerneau, où l'électricité est arrivée très tard, tout simplement parce que le contrat avec l'entreprise de gaz était tellement bien ficelé qu'il était impossible de le contourner. Les contrats et les entreprises de gaz, d'ailleurs, marchaient en général sur l'éclairage public. Et donc, comme l'électricité était quand même utilisée essentiellement pour l'éclairage public, le développement était difficile. Par contre, les usines elles-mêmes, les petites usines, ont commencé à s'équiper assez rapidement, même dans les petites villes, et ont développé donc quelquefois autour du quartier dans lequel elles étaient implantées, eh bien, on reliait certains appartements avec l'électricité. Donc, progressivement, ça s'est mis en place, mais ça a été très dur.
Tout l'enjeu étant de réussir justement à transporter l'électricité, à Gérard Borvaux. C'est ce qui va permettre de mettre en place ces réseaux. Oui, on vous écoute.
Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si, dans les grandes villes, le conflit a été important et il y a eu du retard pour la mise en place de l'électricité, par contre, après l'exposition de 1881, pas mal de personnes du milieu rural, des gens qui s'y connaissaient un petit peu en mécanique, sont montés à Paris et ont été absolument étonnés de voir la facilité avec laquelle on pouvait produire de l'électricité, en particulier avec les machines Gram, faciles à installer et qui ne coûtaient pas très cher, si bien que on a eu dans le milieu rural assez rapidement des villes qui se sont équipées d'un éclairage électrique. La première qui est citée, c'est Bellegarde sur Valser. Qui a équipé rapidement en 1885, qui s'est équipé par l'électricité. Et chez nous, la première commune qui a été équipée par l'électricité, c'est en 1887, la commune de Châteaulin, qui n'était pas la plus grosse des communes du Finistère. Mais justement, qui avait un peu cette chance, c'est qu'elle était peut-être en retard vis-à-vis du gaz, mais du coup, elle s'est trouvée en avance vis-à-vis de l'électricité.
Et puis, il y a l'éclairage.
On a vu ainsi l'électricité s'installer là où le gaz n'était pas.
Puis, il y a l'éclairage public. Gérard Borvaux, il y a aussi l'éclairage dans les foyers. On le disait tout à l'heure, c'est l'invention de la lampe à incandescence par Edison en 1879 qui va faire entrer l'éclairage électrique dans les foyers, même si pendant assez longtemps cet éclairage va se maintenir uniquement dans le salon et la salle à manger, Alain Beltran.
Oui, non seulement dans le salon et la salle à manger, mais si on pouvait imaginer ici une carte de l'électrification de Paris à la fin de la concession, qui était très courte en effet, 18 ans, eh bien c'était l'ouest parisien qui était plus les bâtiments publics du centre, mais vous aviez des zones entières où il n'y avait pas d'électricité, en particulier le 19e, le 20e arrondissement. Sur la rive gauche, il n'y avait pas grand chose non plus. Donc c'est un démarrage qui est... Et il y a un contraste entre ce démarrage qui est finalement assez lent et le discours qui est totalement laudateur.
En effet, ce qu'on entend, c'est que la lumière électrique qui arrive dans les foyers va transformer les modes de vie, les imaginaires. C'est vrai en un sens, Alain Beltran, et en même temps, comme vous le dites, ça prend un certain temps.
Oui, là, c'est une... Il y a une attente, l'électricité répondait à toutes ces attentes, mais malgré tout, il avait des obstacles à vaincre, ne serait-ce que son coût, ne serait-ce qu'il fallait faire des installations, il fallait des canalisations. Dans une ville comme Paris, c'est un peu compliqué. Paris a pris directement la décision qu'on ne verrait pas les fils électriques comme à New York, et donc que tout serait enterré, mais donc fatalement, ça prenait du temps. Tout ça a été assez lent.
Donc fin 19e, début 20e, c'était toujours que l'ouest parisien qui était concerné pour ce qui est des foyers par l'électricité.
Alors une fois passé 1907, on peut dire que l'électrification est beaucoup plus large. Et de même que on disait que la Bretagne n'était pas en retard, eh bien la banlieue a mieux fait que Paris. je veux dire, pour le domaine électrique, Paris, ça a été à peu près un défilé de mauvaises décisions jusque vers 1907-1910.
Mais ce qu'on constate, en tout cas, c'est que cette arrivée de la lumière électrique dans les foyers modifie le rapport au temps et ça va évoluer considérablement à la fin du 19e, mais encore plus tout au long du 20e siècle, Alain Beltrand.
Il faut imaginer qu'une lampe à pétrole, par exemple, ça éclaire un certain espace et ça laisse des tas de coins dans l'ombre. L'électricité, c'est immédiat et ça éclaire à peu près tout. Donc là, il y a toute une différence. Par exemple, pour le maquillage des femmes, ça a été très important. La bougie ou le gaz, qui est une flamme un peu vacillante, permettait de laisser un petit peu dans la pénombre un certain nombre de visages. Avec l'électricité, c'est une lumière qui est quand même assez crue, c'est une lumière qui est un peu dure, et donc il y a une vision, il y a une visibilité qui sont absolument différentes.
Gérard Borvon, on a cette transformation des imaginaires progressivement face à l'arrivée de la lumière électrique.
Oui, bien sûr. À l'inverse, vous savez, je me rappelle, quand j'étais jeune, les pannes d'électricité étaient nombreuses dans la ville de Brest où j'habitais suite à la guerre. Et ma foi, quand l'électricité se coupait et qu'on ressortait les lampes à pétrole, c'était un nouvel imaginaire qui apparaissait. C'était justement cette lumière qui n'éclairait que le cercle familial. Et je vous assure que les enfants aimaient cette nouvelle ambiance qu'ils découvraient. Donc l'imaginaire, ça va et ça vient. L'électricité, effectivement, qui éclaire tout. Eh bien, on aime bien aussi la lueur du foyer et même la lueur de la bougie, parfois. Mais bon.
Mais ce qui est intéressant,
il est
Gérard
certain
Borvon...
que sur le plan utile, de l'utilité, l'électricité, certainement... l'emporte.
L'électricité qui fascine et effraye en même temps, comme on peut l'entendre ici.
Michel marchait par les rues silencieuses. Il était nuit. Il suivit le quai des Augustins jusqu'au Pont-Neuf, et là, l'œil égaré, il se prit à considérer la Seine. Au-dessus de sa tête, le ciel était zébré de fils électriques qui passaient d'une rive à l'autre et tendaient comme une immense toile d'araignée jusqu'à la préfecture de police. Il s'enfuit, seul, sur le fleuve glacé. Il dépassa le tribunal de commerce, le pont Notre-Dame, le pont de la Réforme qui commençait à plier sous sa longue portée, et reprit le quai. Il se trouvait à l'entrée de la morgue, ouverte jour et nuit aux vivants comme aux morts. Il considéra les cadavres rigides, verdâtres, boursouflés, étendus sur les tables de marbre. Il vit dans un coin l'appareil électrique destiné à rappeler à la vie les noyés auxquels restaient quelques sentiments d'existence. « Encore l'électricité !» s'écria-t-il, et il s'enfuit. Notre-Dame était là, ses vitraux resplendissaient de lumière, des chants solennels se faisaient entendre. Michel entra dans la vieille cathédrale. En quittant l'ombre de la rue, Michel fut ébloui. L'autel étincelait des feux électriques et des rayons de même nature s'échappaient de l'ostensoir soulevé par la main du prêtre. « Toujours l'électricité !» répéta le malheureux. « Même ici !» Et il s'enfuit. Mais pas si vite qu'il n'entendit l'orgue rugir, Michel devenait fou. Il croyait avoir le démon de l'électricité à sa poursuite.
Un extrait de Paris au XXe siècle, un roman d'anticipation de Jules Verne, écrit en 1860. À la fin du XIXe siècle, Alain Beltrand, l'électricité est vue à la fois comme une fée et comme un démon.
Il y a un peu des deux, parce que c'est vrai qu'elle apporte un certain nombre de réponses, mais elle est chère, elle est dangereuse, elle est socialement, disons, ciblée. Et puis, on a peut-être trop rêvé. L'avion électrique, même aujourd'hui, ça, on voit que ça pose des problèmes. Il y a un ouvrage très connu de l'époque qui s'appelait « Tout par l'électricité ». Donc l'idée, c'est que l'électricité, ça sera le progrès ultime et on ne pourra pas aller plus loin.
Et donc, ce qu'on entend ici chez Jules Verne, c'est une méfiance envers ce qui était présenté comme un progrès et qui ne l'est peut-être pas tant que ça.
Je ne connaissais pas cette œuvre. C'est intéressant parce que, on est en 1860, si j'ai bien compris, donc avant le développement véritablement de l'électricité. Mais ça rejoint un autre auteur de science-fiction qui s'appelait Albert Robida et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La vie électrique et où les deux héros sont obligés de partir en province pour essayer de fuir l'électricité qui est quelque sorte cette omniprésence, on ne peut plus vivre. Il y a une accélération de la vie. Mon collègue l'a cité, le métropolitain. Le métropolitain, c'est une accélération de la vie. Les gens qui avaient l'habitude de marcher à pied, de flâner, de regarder, de discuter, quand vous êtes dans le métro, eh ben, vous savez que vous allez arriver 7 minutes plus tard à la station où vous voulez aller.
Et donc c'est un changement. Ça a soulevé des craintes.
Oui, c'est autre chose. Les contemporains ont vraiment la conscience qu'il y avait une société qui était en train de craquer. Ça a pris du temps, mais qu'on était en train de passer à autre chose, plus chronométré, plus mécanique, un peu plus dur.
Ce qu'on entend dans ce texte de Jules Verne, Gérard Borvon, c'est que l'électricité, avant même effectivement qu'elle se développe véritablement dans les usages, véhicule beaucoup de fantasmes, beaucoup de peurs.
Oui, moi je connaissais pas non plus ce texte de Jules Verne. Ce que je retiens de Jules Verne, c'est plutôt les textes où il fait l'apologie de l'électricité. Le Nautilus du capitaine Nemo, c'est un hymne à l'électricité. Son roman Rebure, le conquérant qui se transpose dans les airs, le Nautilus qui est sous la mer, c'est pareil. Ce sont des merveilles d'électricité qui sont développées. L'ingénieur Robur a mis au point des accumulateurs, justement des piles pratiquement qui produiront de l'électricité de façon continue. Moi, je vois plutôt Jules Verne comme quelqu'un, au contraire, qui se projette dans l'avenir de l'électricité.
Il y a eu davantage de poètes et d'écrivains qui ont loué les vertus de l'électricité que de craintes exprimées vis-à-vis de ce progrès qu'on maîtrisait peut-être encore mal.
Sur la crainte, moi, l'histoire de Robida, là, c'est intéressant. Le 20e siècle, la vie électrique. Alors, il décrit une province, justement, qui a été épargnée. Les autorités ont décidé qu'il y avait une région où on n'allait pas mettre l'électricité pour que la population puisse aller se reposer. Et la province en question, qui est assez, assez amusant, bah évidemment, c'est la Bretagne.
Et je n'osais pas le dire.
Tout le chapitre de Robida sur la province en question, c'est assez amusant parce qu'il nous décrit une Bretagne de la fin du 19e comme peuvent la décrire les auteurs de cette époque. Alors quand on voit que finalement c'est peut-être en Bretagne et dans les villages bretons que l'électricité est arrivée en premier, il y a une vision de la Bretagne effectivement qui ne peut que nous amuser.
En tout cas, l'électrification des villes, des campagnes, va continuer progressivement tout au long du XXe siècle. On en parle dans un instant.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Can't beat lightning with a 40-watt bulb. You can only go in one direction once your back's to the wall. The scent in the air, the wind through the magnolia trees. The branches bend and drop petals on my feet. Street lights balance on a lost dog's tail. The sky looks like a table all covered in fish scales. Not only idiots tie from the wings of a dirty dove. It's called love. A black cat up and cross my path reminds me I'm one day closer to my last. No wonder you hurt like a bent crowbar. No wonder you run out of my arms like dust from the saw. The curtains part like ruts down that old mill road. Can't expect to hold on, at the same time let go. Not only idiots tie from the wings of a dirty dove. It's called love.
écoutez 40 Watt Bulb de Ben Weaver sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Nous poursuivons notre histoire économique de l'électricité en compagnie d'Alain Beltran et Gérard Borvon qui est avec nous en duplex de Quimper. Alors c'est après la Première Guerre mondiale, dans la période de l'entre-deux-guerres, que des connexions entre les réseaux électriques régionaux vont être mises en place, Alain Beltran.
Oui, là il y a une grande œuvre. Il n'y a pas grand-chose comme réseau de transport d'électricité avant 1914. Et dans l'entre-deux-guerres, il y a un véritable travail qui est d'ailleurs associé très étroitement aux compagnies de chemin de fer. Les compagnies de chemin de fer qui désiraient s'électrifier ont été aussi des vecteurs d'accélération de l'électrification.
Donc un réseau se plaque sur un réseau préexistant.
Voilà. Et donc en 1939, il existe vraiment un réseau de transport d'électricité. Il y a un hiatus entre Paris et le nord de la France, c'est assez curieux. Mais sinon, vous avez des liaisons avec les Alpes, avec le Rhin, avec le Massif central. Et il y a un réseau qui est très très bien fait au niveau du sud-ouest, Bordeaux, les Pyrénées, etc.
Mais la distribution électrique en France est tout de même longtemps restée morcelée.
Ah ben, il y a une grande différence entre construire une ligne de transport et puis distribuer l'électricité pour chaque Français. Dans les villes, l'essentiel a été fait dans les années 20. Et dans les années 30, on s'est rendu compte que l'électrification rurale avançait finalement assez lentement. Pour une raison simple, c'est que les entreprises privées n'avaient pas un gros intérêt à tirer une ligne de 3 km pour 3 fermes.
Avant d'en venir à l'électrification des campagnes, peut-être qu'il faut préciser que la Première Guerre mondiale a aussi poussé la France à chercher des alternatives au charbon. Et c'est à ce moment-là que l'énergie hydroélectrique se développe, Alain Beltran.
Oui, on a... c'était un petit peu forcé dans la mesure où finalement le bassin du Nord-Pas-de-Calais était en très grande partie occupé, puis il a été détruit. Et donc on a cherché en effet des ressources hydroélectriques dans le Massif central, mais surtout dans les Alpes du Nord. On a construit pas mal de centrales qui arrivent plutôt vers 1918, 1919, 1920, puisqu'il faut le temps de les construire. Ça a plutôt été un temps quand même de pénurie électrique qu'autre chose.
Et donc dans les années 30, on arrive à une situation où la France thermique du Nord est reliée à la France hydraulique du Sud.
Vous l'avez bien résumé, la France a une particularité, un Nord qui est thermique, un Sud qui est hydroélectrique, pour faire simple. Et entre les deux, en effet, il faut des liaisons à haute tension, du transport d'électricité, ce qui permet de rationaliser non seulement le transport, mais les usages et la répartition de l'électricité sur tout le territoire.
Gérard Borvon, tout l'enjeu, ça va être de relier progressivement ces réseaux locaux, puis régionaux, qui se créent peu à peu.
Oui, il y a peut-être le Nord, il y a le Sud et puis il y a l'Ouest aussi. Hein. Et dans l'Ouest, effectivement, les entreprises locales, au fur et à mesure, se concentrent. Il y avait beaucoup de petits producteurs et dans la période, effectivement, qu'on vient de citer, par exemple dans le Finistère, il ne reste plus que deux producteurs qui ont récupéré l'ensemble de la production. Et en particulier, un de ces gros producteurs, c'est l'entreprise Le Bon, qui est déjà une espèce de petite multinationale, parce que elle fonctionne, elles ont des usines, l'entreprise a des usines en Espagne, a des usines en Algérie, a des usines en Égypte.
Mais c'est la concentration qui a permis ce développement.
Ouais, voilà, on a déjà des entreprises qui travaillent localement, mais qui sont réparties quand même sur l'ensemble du territoire et qui donnent finalement un maillage régional qui est assez intéressant, avec la mise en œuvre, dès que c'est possible, de petits barrages sur les rivières, de moulins qu'on fait fonctionner. Ma foi, l'électricité se développe lentement.
Et l'objectif de cette électrification, c'est aussi d'unifier le territoire. Il y a déjà des réseaux électriques que sont le télégraphe, le téléphone, qui couvrent une bonne partie du territoire à ce moment-là, Alain Beltran. Et là, on veut achever d'unifier le territoire avec le réseau électrique.
C'est une forme d'unification du territoire, comme il y a eu pour les chemins de fer, sauf que la distribution d'électricité, à terme, c'est évidemment pour tous les Français, comme la communication, mais ça sera beaucoup plus tard. Donc c'est quand même une tâche qui est difficile, qui est longue, et qui, comme n'étant pas totalement rentable, va amener petit à petit les pouvoirs publics à s'y intéresser.
Et puis la Seconde Guerre mondiale va arriver, et avec elle, le temps des rationnements.
Depuis l'armistice, nos ingénieurs ont réalisé le tour de force de doter la centrale électrique de la plaine Saint-Denis d'une nouvelle unité de 80 000 chevaux représentant le dernier mot de la technique moderne. Ces installations, d'une puissance totale de 200 000 kW et dont la mise au point est terminée, permettent une notable économie de charbon pour une plus grande production d'énergie électrique. Cependant, n'oubliez pas que toute consommation d'électricité est une consommation de charbon. Pour éviter de nouvelles restrictions dans l'industrie, ne gaspillez plus cette force vitale. Songez que la consommation de ce radiateur, fonctionnant seulement une demi-heure, permet d'effectuer le battage de 50 kg de blé. Le courant utilisé durant une heure par ce fer à repasser, ou par cet aspirateur, ou par ces 10 lampes de 50 watts, pourrait transporter deux voyageurs en métro pendant le même temps. Une lampe de 100 watts qui brûle 2h30 équivaut à la fabrication d'une paire de sabots. Enfin, des milliers de malades doivent la guérison grâce aux rayons ultraviolets.
Économiser l'électricité.
Voilà, une archivina du 29 janvier 1943. Alors, les informations sont bien sûr produites à ce moment-là par le régime nazi et le régime de Vichy. Et la priorité, on est en temps de guerre, c'est en effet d'économiser l'énergie, Alain Beltran.
Oui, c'est même marqué sur les factures d'électricité. Les factures d'électricité ont rappelé que l'électricité, c'est formidable, etc., mais qu'il faut l'économiser. Et cette... si on parle en termes de mentalité, ça a un petit peu renforcé le côté l'électricité c'est rare, c'est cher, c'est difficile, etc. Et les pénuries n'ont pas duré que pendant la guerre. Les pénuries ont dépassé la guerre et il y a eu des restrictions pratiquement jusqu'en 1949 parce que pas de chance, ça a été des années de sécheresse et donc tout le côté hydroélectrique était déficient et le charbon on en manquait. Donc les années 40 ont été difficiles de ce point de vue.
Et alors l'année 46 est un moment déterminant pour l'électricité. Avant d'en venir à la question du service public de l'électricité qui est créé en 1946 et EDF également, ce qu'il faut expliquer, Alain Beltran, c'est que dans les années 30, les tarifs de l'électricité sont très différents selon les prestataires qui sont nombreux sur le marché et selon les régions. Alors c'est à ce moment-là qu'on veut justement unifier les producteurs et les distributeurs d'électricité au sein d'une seule et même entreprise nationale ?
Disons qu'il y a une prise de conscience progressive que la façon dont se développe l'électricité en France n'est pas optimale. Alors il y a par exemple la diversité des tarifs. Il y a parfois deux communes l'une à côté de l'autre. Il y avait des différences de 50%, on ne sait pas pourquoi. Il y avait aussi la puissance de ces sociétés qui se concentraient, qui pouvaient tenir tête. Il y avait les retards de l'électrification rurale.
Elles étaient quand même 1450, voilà, je crois.
Pour la distribution, sociétés. Pour le transport et pour la production, beaucoup moins. Mais donc, il y avait aussi politiquement, dans les années 30, l'idée que pouvait-on laisser l'électricité, l'énergie électrique dans les mains du privé. Donc ce sont des idées qui sont faites petit à petit jour et qui ont été accélérées par la guerre et en particulier la charte du Conseil national de la résistance.
Et alors justement, Gérard Borvon, qu'est-ce qui mène le combat au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ce combat du service public de l'électricité, parce que c'est un moment où il y a tout de même un certain nombre de résistances à l'Assemblée nationale.
Oui, c'est le ministre communiste Paul qui décide ou fait décider par l'Assemblée la nationalisation de l'électricité. Oui, c'est un choix politique, c'est qui est issu du Conseil de la Résistance. Donc on met en œuvre là pour la première fois un service public d'envergure sur l'énergie, sur l'électricité, sur le gaz.
Mais cela provoque des débats importants, Alain Beltran.
Alors, c'est sur la production et le transport, tout le monde était à peu près d'accord pour la nationalisation. Pour la distribution, les débats ont duré pratiquement un an et demi. Pour une raison simple, c'est la distribution, c'est là où on reçoit l'argent. Et donc, les entreprises privées ont essayé de garder cet aspect-là. Et en fait, en effet, comme dit Gérard Borvon, alors d'abord, le général de Gaulle était extrêmement favorable. On est dans une période où le tripartisme, où il y a le Parti communiste, le Parti socialiste et le MRP, donc ça penche plutôt à gauche. Le général de Gaulle était quand même assez dirigiste. Et c'est lui qui nomme Marcel Paul, qui est un électricien, qui est releveur de compteur à la section Étienne Marcel, communiste, déporté, la personne avec un véritable charisme et qui porte cette nationalisation.
Sachant que les enjeux sont considérables, puisqu'ensuite, pendant les Trente Glorieuses, la consommation d'électricité double tous les 10 ans. Gérard Bourbon, c'est vraiment une période d'essor considérable.
Oui, on le constate. Et bon, on constate aussi que l'essor, peut-être, nouvelle étape dans l'essor, ça a été la nucléarisation de la France, les centrales nucléaires qui rapidement ont été en surproduction et l'obligation qui a été faite d'équiper les appartements en chauffage électrique, ce qui cause effectivement actuellement un gros problème, car si pendant la guerre la propagande invitait à économiser l'électricité, eh bien à nouveau on est à nouveau rentré dans cette période, alors pour d'autres raisons qui sont par exemple la pollution de l'air ou encore le problème des déchets nucléaires qu'il faudra bientôt gérer.
Mais la question de la sobriété en effet est plus d'actualité que jamais. Et alors ce qui s'est passé aussi Alain Beltran, c'est que certaines villes moyennes ont été le lieu d'expérience, je pense en particulier à Orléans, à Avignon. À quoi servaient ces villes pilotes? Quel était le but de ces expériences?
Alors je reprends ce que je disais, finalement l'image de l'électricité restait quand même l'image d'une énergie chère, d'une énergie parfois assez rare, et donc il a fallu vaincre, et puis d'autre part des pénuries pendant toutes les années 40. Donc il a fallu vaincre toutes ces réticences et dire aux Français, il y a de l'électricité, qu'elle soit hydroélectrique ou thermique, et si vous voulez véritablement transformer votre quotidien, il faut passer par l'électroménager. Et pour cela, il y a eu des campagnes de sensibilisation, ce qu'on appelle des villes pilotes. Et puis, il y a eu surtout quelque chose qui est resté dans les mémoires longtemps, qui était l'opération Compteur Bleu, qui en fait était un renforcement de la puissance du compteur et non pas de sa consommation. Mais à partir de 63, on a dit aux Français, vous pouvez vous équiper en électroménager. Et là, c'est vraiment, on est dans le plein essor des Trente Glorieuses.
Et c'est le moment effectivement où on peut acheter de l'électroménager à crédit notamment. Et c'est comme ça que beaucoup de produits de consommation se diffusent. Et l'enjeu dont on a commencé à parler, c'est un enjeu qui s'exprime aussi avant cette période de société de consommation, avant les Trente Glorieuses, dès l'entre-deux-guerres, l'enjeu évidemment de l'électrification des campagnes.
Vers 1927-1928, c'est là qu'on peut peut-être commencer à parler vraiment de civilisation électrique en France. Donc si les programmes d'électrification commencent à la fin des années 20, par contre l'électricité qui, comment dire, irrigue la vie de la ferme, ça c'est plutôt en effet 33, 34, 35, avec des, alors là aussi des phénomènes de fait assez intéressants pour le lecteur d'aujourd'hui, quand on voit les sociétés d'électricité qui faisaient les fêtes dans les villages pour l'arrivée de l'énergie électrique. Là ça commence à être une civilisation partagée, donc milieu urbain, milieu rural, tout le monde profitant de l'éclairage d'abord, et puis ensuite de l'électroménager de manière beaucoup plus diffuse.
Voilà, on entendait l'historienne de l'électricité Fabienne Cardot sur France Culture le 30 janvier 1995. L'enjeu d'électrification des campagnes est évidemment très important, Alain Beltran, parce que les campagnes sont bien plus peuplées qu'aujourd'hui.
Elles sont plus peuplées, et puis de toute façon, vous avez parlé de services publics. Qui dit service public veut dire intérêt général, veut dire l'ensemble de la population, veut dire unicité du tarif. Vous avez bon l'image classique du timbre-poste, si vous faites 100 mètres ou si vous faites Paris-Ajaccio, c'est toujours le même tarif. Donc c'est côté service public était très important. Et il a très largement dominé l'histoire d'électricité de France pendant très longtemps.
Et c'est vraiment dans les années 30, comme le disait Fabienne Cardot, que les fermes commencent à être électrifiées de manière plus généralisée?
Alors, ça dépend des régions. Quand on regarde le niveau d'électrification en 1946, quand naît EDF, il y avait quand même des régions qui étaient où il y avait pas mal d'écarts qui n'étaient pas électrifiés. Alors je suis désolé encore une fois, bien sûr il y avait en particulier la Vendée, mais il y avait des régions, c'est assez surprenant, en particulier les Basses-Alpes, etc., qui étaient mal électrifiées, parce que finalement, quand ce sont des régions montagneuses mais d'accès difficile, eh bien ce n'est pas simple d'apporter l'électricité. Donc le travail est un travail de longue haleine, et J'ai en tête là un dessin humoristique de François en 1960 qui montre que dans les campagnes, l'électrification n'était pas encore terminée, mais on la voulait, mais on l'attendait.
À quel moment on considère qu'elle est vraiment achevée à cette électrification?
Ça, c'est une question redoutable. Vous savez, on peut parfaitement dire que dans les années 60, l'essentiel était fait. On va dire dans les années 70. Mais le problème, dans un pays comme le nôtre, qui est relativement grand, où il y a certains endroits où il y a des écarts, donc c'est parfois, ça a pris du temps. Mais bon. Les années 60-70, l'essentiel est fait.
Et ce qui est intéressant, Alain Beltran, c'est que l'image de l'électricité va progressivement changer et surtout se banaliser. On parlait tout à l'heure de l'électricité comme d'une fée, d'une magie qui s'offrait au foyer. Tout d'un coup, c'est devenu quelque chose finalement de très banal.
La thématique des années 30 sur le développement de l'électricité, qui a permis de lutter contre la crise industrielle, c'était l'électricité, c'est la servante mécanique, c'est la servante docile qui est toujours là, qui est efficace et qui ne se mettra jamais en grève ou qui ne demandera pas d'augmentation. Et donc, petit à petit, après la fée, vous avez la domestique, la servante, jusqu'au point de perdre toute image dans une période plus récente, les années 70-80. Ça venait à l'idée de personne de demander est-ce que vous avez l'électricité. Tout le monde l'avait.
Vous partagez, Gérard Morvan, cette vision d'une électricité considérée comme une fée à la fin du 19e siècle et devenue une servante progressivement au 20e siècle?
Oui, certainement. Il n'y a qu'à imaginer à chaque fois qu'il y a une coupure d'électricité, ça devient un drame, quoi. Les congélateurs qui ne peuvent pas tenir plus longtemps que quelques heures. L'industrie qui panique. On a en quelque sorte, c'est devenu une servante et en même temps,
on peut aussi dire que c'est passé d'un magicien à un servant, parce que c'était très genré comme vision.
On a créé une fragilité parce que tout d'un coup, quand la servante ne peut plus fournir de services, beaucoup de choses s'écroulent, quoi. Donc, il va falloir peut-être réfléchir à plus d'autonomie dans la façon dont on utilise ou dont on produit l'électricité, ce qui est d'ailleurs en train de se passer en ce moment avec des productions beaucoup plus locales d'électricité renouvelable, en particulier l'éolien, le solaire, et chez nous peut-être bientôt l'hydrolien.
Alors on arrive presque au terme de cette émission. Un dernier mot peut-être, Alain Beltran, sur cette histoire de l'électricité dont on peut considérer qu'elle court des années 1880 à aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur l'ensemble de cette histoire?
La première chose que je pourrais dire, c'est que c'est assez curieux, c'est une histoire qui n'est pas terminée. C'est pas une grande révélation de dire que notre avenir sera encore largement électrique. Prenons le cas de l'automobile. L'automobile, son avenir, on le montre, ça sera l'électricité, les trottinettes aussi, etc. La climatisation va sans doute se développer. Il y a plein d'usages qui deviendront électriques. Pas oublier qu'aujourd'hui, en France, l'essentiel de la consommation, c'est quand même des énergies fossiles. Donc l'électricité, elle a quand même un bel avenir devant elle. Mais on ne sera pas dans l'esprit, toujours plus d'électricité, une consommation qui doublait tous les 10 ans, comme vous l'avez dit. Il faudra que ça soit efficace, que ça soit sobre, que ce soit véritablement pour des usages bien précis.
Et donc, l'heure est plutôt à la déconsommation.
Pas forcément. Alors, ça dépend ce que vous entendez par déconsommation. C'est pas forcément une baisse radicale. Mais en tout cas, la consommation d'électricité n'augmente plus. Et donc ça, c'est quand même une rupture par rapport à avant qui est quand même assez, assez profonde.
Toute la question étant, effectivement, est-ce qu'avec la transition énergétique, cette demande d'électricité va augmenter dans les prochaines années? On peut entendre que, pour certains, l'électricité sera encore plus l'énergie du 21e siècle qu'elle n'a été l'énergie du 20e siècle, Gérard Morvan.
Oui, c'est possible si on l'utilise bien, effectivement. Parce que bon, il y a des façons peut-être aussi dangereuses de l'utiliser. Je pense aux voitures électriques. Tout dépend comment on produit l'électricité qui va les alimenter. Parce que si on produit l'électricité sans changer le mode de production, on va tout simplement déplacer la pollution. Donc il y a vraiment une réflexion à mener autour de ça. Mais l'électricité, c'est un vecteur transport d'énergie qui est ou de production d'énergie qui est effectivement essentielle, mais il faut bien l'utiliser.
Et bien justement, on parlera de ce marché de la voiture électrique demain et du mix énergétique français dans notre émission jeudi. Un grand merci à tous les deux. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur la grève en cours dans de nombreux services d'urgence à travers la France.
Mais oui, ce sont ainsi plus de 90 services qui se sont mis en grève aujourd'hui pour dénoncer les conditions de travail toujours plus difficiles des urgentistes confrontés à un manque chronique de moyens et de personnel. Une situation particulièrement explosive à laquelle a tenté de répondre la ministre de la Santé. Celle-ci a affirmé sa volonté de refonder le modèle des urgences afin de répondre aux problématiques structurelles d'organisation et de financement d'où souffrent les services. Elle a également annoncé sa volonté, je cite, d'accompagner financièrement les établissements faisant face à un surcroît d'activité et à des afflux exceptionnels, sans pour autant annoncer de mesures concrètes ou de moyens supplémentaires.
Des annonces jugées très insuffisantes par le collectif Interurgence qui fédère les différents services mobilisés dans ce mouvement social.
Oui, le collectif réclame ainsi une augmentation des salaires de 300 euros net, des hausses d'effectifs et une meilleure sécurisation des locaux pour faire face à l'afflux toujours plus important de patients. Il faut dire que les urgences sont devenues la véritable porte d'entrée de l'hôpital, le sas de tri, l'espace de première prise en charge. Comme l'explique le chercheur François Danet, les premiers services d'urgence ont été construits au début des années 60 pour réguler l'accès à l'hôpital des patients qui arrivaient de façon désordonnée dans les services. Rapidement, les urgences deviennent le lieu où l'on traite les situations médicales, non médicales, sociales, tout ce qui échappe en somme à la prise en charge immédiate des spécialistes. François Danet ajoute qu'outre leurs compétences cliniques, les urgentistes ont acquis une compétence sociale. Ils sont habitués à soigner le tout venant à sortir de leur rôle. Une versatilité des personnels soignants qui leur a permis jusqu'à présent de faire face à la multiplicité et à la complexité des profils de patients.
Le problème, c'est qu'avec la hausse de fréquentation des urgences, cette capacité d'adaptation ne suffit plus.
Non, effectivement, comme l'explique un médecin urgentiste dans Libération, il est impossible de continuer à moyen constant avec une augmentation de 5% de l'activité tous les ans. Il faut dire qu'un nombre croissant de patients se rend directement aux urgences plutôt que de consulter un médecin généraliste. Un problème causé en grande partie par l'émergence de déserts médicaux et la difficulté dans certaines régions de trouver un médecin traitant. Face à cet afflux sans précédent, les urgentistes et les personnels soignants ne parviennent plus à s'occuper des patients correctement. Un infirmier témoigne ainsi dans Le Parisien : « Nous n'avons pas assez de plateaux repas pour nos patients. Récemment, j'ai fait une nuit de garde avec un seul thermomètre pour 80 patients. » Une baisse des moyens matériels et financiers, conjuguée avec des exigences d'efficacité importées directement du privé, qui rendent impossible leur mission quotidienne.
L'urgentiste Patrick Peloux a d'ailleurs pris une image particulièrement marquante pour dénoncer ces manques de moyens. Il y aurait selon lui plus de personnel mobilisé pour le tournoi de tennis de Roland-Garros qu'au service des urgences de l'hôpital le plus proche.
Oui, des chiffres d'ailleurs vérifiés par le site Check News qui explique qu'à un instant donné, ce sont ainsi en moyenne 16 personnes, infirmiers, aides-soignants et médecins, qui travaillent aux urgences d'Ambroise Paré, quand dans le même temps, 19 personnes sont mobilisées sur le site de Roland-Garros pour s'occuper du public, sans compter 79 au service des joueurs. Si bien sûr ces chiffres ne veulent rien dire en eux-mêmes, ils servent néanmoins à illustrer une réalité grandissante, celle d'une médecine à deux vitesses, avec le développement d'un côté d'une médecine privée, efficace et de qualité, et de l'autre un service public exsangue auquel on demande de faire toujours plus avec toujours moins d'argent. On se quitte avec les Talking Heads et leur chanson Electricity, sortie en 1982. Merci beaucoup Alain Beltran et Gérard Borvon de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci également aux techniciens des bureaux de Radio France à Quimper qui ont permis ce duplex. Demain, c'est le marché prometteur et pourtant semé d'embûches de la voiture électrique que nous allons examiner. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.